Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. Ce soir, comme toujours depuis 2 ans et demi maintenant, je suis toujours en compagnie de mon ami et collègue Ulysse Combasson. Comment ça va Ulysse ?
Ça va très bien, et toi Swill ?
Ça va super. Et avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse pour remercier quelqu'un. Cette personne-là, c'est Charlotte qui nous a offert du coup le nouveau logo. Qui est rentré en vigueur depuis le dernier épisode, et j'avais totalement oublié de lui dire merci, et donc voilà, là c'est le moment, franchement merci à toi Charlotte pour ce magnifique travail, donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, nous il nous plaît beaucoup.
Ouais, on le trouve super.
Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Ulysse, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche.
On va parler de licence morte. Du coup, c'est un sujet qui nous tardait de faire. Ça fait vraiment, depuis le début de la saison, on s'est dit « Ah, c'est un truc qui nous est venu très rapidement en tête dans les sujets qu'on voulait aborder, de par l'actualité, déjà. On va revenir dessus avec différents titres et licences peut-être qui ne vont plus revenir, qui sont maintenant, depuis début 2026, officiellement mortes. On
peut dire
ça comme ça. Et donc, on va parler de jeux vidéo qui sont un peu vieux, d'autres qui sont un peu moins.
Ouais, c'est ça.
Et pour introduire un peu le sujet, peut-être qu'on peut définir c'est quoi une licence morte ?
Une licence morte, c'est simple, c'est une licence qui du coup qui est délaissée depuis très longtemps. Je pense que c'est une notion importante. Un exemple tout simple, moi je pense à une licence, on va prendre chez Nintendo, je pense à Star Fox, qui est voilà une licence absolument mythique, présente voilà sur Nintendo 64 à l'époque, Super NES. Et ça fait très longtemps maintenant. Moi, je pense à l'opus qu'il y a eu sur GameCube. Je pense en 2001, c'est Star Fox Adventures. C'est un jeu qui voilà, fait partie du panthéon de Nintendo et qui n'est jamais vraiment revenu, en fait. On a eu un retour, je crois que c'est Star Fox 2 sur le catalogue NES classique.
Okay.
Du coup, c'était un projet qui était annulé à l'époque et qui était revenu. On s'est dit, peut-être que Nintendo reporte de l'importance à Star Fox, peut-être qu'on va revoir le retour de cette licence, et toujours pas, et ça fait un bail, voilà, les fans de Star Fox, un peu comme, je pense à Half-Life, du coup, moi aussi, les fans de Half-Life, un peu, qui sont là, qui doivent acheter des casques verts
qui
grappillent un petit peu le tout ce qui bouge. Et voilà, donc une licence morte, voilà, c'est ça, c'est des jeux qui sont délaissés, sur lesquels on n'entend plus du tout parler, il n'y a pas de projet.
Et du coup, j'ai quand même une question dès l'introduction là-dessus, c'est est-ce que, tu parles du coup de licence délaissée. Mais si un studio, par exemple, a fermé, même si l'IP, elle existe, elle appartient, on va dire, à une boîte encore, est-ce qu'on considère que c'est une IP dormante ou si le studio qui l'a faite, qui du coup a mis la clé sous la porte, n'est plus là ? Est-ce que juste elle n'est pas finie ?
Je pense que, on peut vraiment la considérer genre morte et enterrée. C'est ce genre de licences qui sont mortes avec leur studio et tout. Mmh. Et à moins que voilà, du coup, le groupe à qui appartient la licence donne la licence à un autre studio, par exemple, ce qui est faisable, ce qui a déjà été fait plusieurs fois même dans le passé, on peut considérer cette licence comme vraiment morte et enterrée, là où voilà, il y a quand même des nuances à avoir, c'est-à-dire toutes les licences, on peut parler de licences dormantes, par exemple, je pense à Tomb Raider après le reboot qu'il y a eu dans le milieu des années 2010,
la trilogie
par Crystal Dynamics, où après ça, on a pas vraiment eu de retour de Tomb Raider. Et on n'était pas là à dire la licence elle est morte et tout. On savait que peut-être il y avait quelque chose qui se préparait. Amazon avait racheté la licence du coup. Et là, du coup, cette année, on va revoir le retour de Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider.
8 ans après le dernier, c'est
ça ? Voilà, c'est ça, on va dire. C'est des ranges qui sont tolérables. C'est un peu. Ce serait beaucoup de dire que Tomb Raider a été une licence morte. Voilà, surtout vu la taille de la licence.
Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que ce qui fait aussi une licence morte un peu, c'est sa santé économique. Quand là, on va le voir, on va commencer avec notre première partie. En gros, là, dans cet épisode, ce qu'on va essayer d'amener comme question, c'est est-ce qu'il faut faire revivre ces licences mortes ? Est-ce qu'on a besoin de d'exorciser un peu les morts, d'avoir des zombies.
Des nécromanciens.
Sortent, voilà, exemple, des nécromanciens qui fassent sortir les morts d'outre-tombe. Et bah, ça va être la question à laquelle on va répondre. Et donc, pour commencer, sur la première partie de l'épisode, on voulait évoquer, je crois, donc deux cas de licence
mm-hmm.
qui étaient, en tout cas, une portée par Electronic Arts. Je
c'est
crois.
Ça, Skate.
Ouais. Et moi, je voulais aborder Saints Row avec Swill. Tu veux que je commence du coup ?
Ouais, vas-y. À toi
ouais. Alors, pour Saints Row, on en a parlé dans l'épisode sur les mondes ouverts. Mm-hmm. C'est une saga qui nous est vraiment chère parce que c'est la saga qui a rivalisé comme avec GTA sur le côté mainstream et populaire dans les années 2010-2000 sur les consoles du coup 360 et PS3, donc de 6e génération, 7e ?
7e génération.
7e génération, ouais.
Ouais.
Et voilà quoi, donc c'était quand même assez un tour de force de s'imposer comme un nom, comme une référence à côté du GTA-like en fait, tout simplement.
Mm-hmm.
On a beaucoup parlé aussi de Driver-like à l'époque, avant quand c'était le premier jeu 3D à avoir des villes et tout. Mais voilà, GTA s'est imposé et Saints Row a réussi à se faire un nom, ce qui est assez impressionnant. Donc je me suis noté un petit historique rapide des faits, où tout avait commencé en 96 quand Volition, donc le studio qui a développé la saga, il est né des cendres de Parallax Software, qui était une boîte aussi de développement de jeux. Ils faisaient, je crois, des jeux, pareil, avec un peu de 3D, en mode un peu vaisseau et tout, un peu chouette. Et ils se sont fait remarquer donc avec Free Space et les Red Faction. Et les Red Faction, c'est des jeux de guerre avec plein de trucs destructibles, hyper dynamiques.
Mm-hmm.
Je sais que John Lyman de Digital Foundry aime beaucoup cette licence, qui est une licence morte, par exemple. Je crois que le dernier jeu, c'est Red Faction Guerrilla, qui est sorti en 2012. Et
on n'entend plus parler.
On n'entend plus parler. Il y a peu de chances que ça revienne parce que vous allez voir l'histoire de ce studio, elle n'est pas très folle maintenant. Et donc, en 2006, tout le monde attend du coup un successeur à GTA San Andreas. Et en fait, Volition sort Saints Row en exclu pour la Xbox 360, qui a été quand même un beau succès. Le premier Saints Row, c'est un GTA-like totalement assumé, mais vachement solide, ou qui marche bien. Je crois qu'au niveau de vente, je me suis noté, il a fait genre 2 millions de ventes pour une exclu 360. C'est assez balèze. Et du coup, le jeu marche vraiment bien. Il y a un côté où, à côté d'un GTA qui est plus sérieux et se prend en plus premier degré, ils arrivent quand même à amener des touches d'humour, des trucs un peu plus loufoques, même dans le premier déjà. Genre avec le côté de... Ça, c'est l'émission de fraude à l'assurance, qui est déjà introduite, qui était hyper fun, où il faut se jeter sur des voitures pour, du coup, faire les fraudes à l'assurance.
Avec la physique, c'est très marrant, avec la ragdoll. Ouais.
Exactement, et avec le moteur graphique, en fait, ça marchait extrêmement bien. Et donc, ouais, le premier marche très très bien. Ensuite, on a Saints Row 2 en 2008, qui là, fait que c'est un peu, je mets le moment où la série trouve son propre ton. Je trouve que c'est un peu une sorte de progression où le premier, ça reste un clone de GTA, mais qui marche très bien. Le 2, beaucoup de gens l'apprécient énormément. Moi, j'ai un peu joué, mais je pense que je l'ai fait trop tard pour vraiment le kiffer. Je trouve qu'il a un peu vieilli. Mais voilà, ça reste un jeu qui a vraiment beaucoup plu, avec toutes les guerres des gangs, donc le gang des Saints, qui est donc le gang qu'on joue avec le boss.
Mm-hmm.
Et vous avez la personnalisation du personnage et tout. Donc, c'est vraiment accentué sur là où un GTA... C'est vrai que j'ai pas trop parlé de l'histoire, mais bon. Là où un GTA, c'est très narratif avec... un protagoniste ou une protagoniste qui va débarquer dans un monde, une ville, et on va l'explorer, et on va aller de mission en mission, et c'est très très narratif, avec une satire sur les États-Unis, tout ça. Saints Row, c'est vraiment des histoires de guerre de gang, vraiment un street level, où vous êtes là pour le but, c'est d'être le roi un peu de la ville,
mm-hmm.
de dominer un peu tous les quartiers, de prendre le pas sur les autres gangs et les autres clans. Et donc, il y a un outil de personnalisation, de personnages que vous avez pour que votre personnage ressemble à qui vous voulez, à vous, à une star, ce que vous voulez. Et donc, c'est hyper ouvert. En fait, faut voir Saints Row comme une licence qui, pour moi, est un côté genre. C'est un bac à sable si on avait remplacé les pelles et les seaux par des godmichets. Enfin,
ouais,
et des armes à feu.
C'est très vulgaire.
Voilà,
c'est
ça. C'est très goofy et tout. Je me suis noté ça un peu dans les traits pour moi qui caractérisaient la licence. C'était l'humour en couleur, la liberté de mouvement, l'impression d'être un bac à sable justement qui. A pas de limite, même comparé à un GTA où on a toujours l'impression que le monde est tellement genre réaliste que du coup on est contraint un peu là-dedans. Là où Saints Row, c'est non, c'est les PNJ, les passants, on se dit pas, ah, c'est des mecs qui ont une routine, c'est des petites peluches que tu peux tabasser pour te divertir ou voler avec un avion. Enfin voilà, tout est fait pour être un peu fun, jubilatoire et en même temps un peu bébête. Mais ça a fait le sel jusqu'à du coup Saints Row 3. Donc Saints Row 2 s'était vendu à 3,4 millions et Saints Row The Third. Ouais, j'ai vu, c'est donc plus de 10 millions d'exemplaires vendus en prenant en compte le remaster qu'il y a eu. Et Saints Row 3, on en a déjà parlé. Pour moi, je sais pas ce que Swill en pense, je vais le laisser un peu parler là-dessus, mais pour moi, c'est le meilleur de
la
saga.
Pour moi, c'est le juste milieu parce que dans Saints Row 3, on a un peu une évolution de du ton, quand même, comparé aux deux. On va plus dans le côté un peu plus goofy, on est moins dans le côté street, j'ai envie de dire. On est plus, voilà, les Saints, maintenant, t'as l'impression que c'est une corporation, tu vois. Dans oui, une sorte de gang corpo. Et c'est totalement barré, t'es là où t'as des avions de chasse, t'as... Vraiment, le ton se débride vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un juste milieu là où un Saints Row 4 qui va venir plus tard est totalement encore plus barré, où genre on vient le président des États-Unis d'Amérique, on a des super pouvoirs, il y a des aliens et tout, genre c'est totalement bordélique.
C'est un peu pris comme le début du déclin de la licence, et du coup c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est que en fait Saints Row 4, là je l'ai vu en faisant mes recherches, c'était censé être un DLC Saints Row 3, c'était pas censé être un jeu à part, c'était pas censé être un standalone. Et du coup donc comme la licence elle marche hyper bien après Saints Row 3, disent ok, bah cette idée du DLC qui avait été amenée par, je crois, le directeur créatif de la licence, en tout cas du troisième jeu, ils se disent ah bah non, on peut peut-être l'étendre pour en faire un jeu complet, donc ça permet d'avoir moins de coûts de développement et de retirer plus de thunes. Et le quatrième jeu a plutôt bien marché, je crois que c'est 5 à 6 millions de ventes de ce que je me suis noté et tout. Les retours étaient quand même plus mitigés, les gens disaient ah, est-ce que là on n'a pas un peu atteint un stade où là ça va trop loin en termes de parodie, en termes d'absurde, d'humour et tout.
Le 3 est vraiment resté dans, même dans l'esprit, vraiment comme peut-être le meilleur opus en termes de fun. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un remaster qui est sorti, je crois, en 2020. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu qui vaut le détour.
Donc, ouais, c'est ça. Alors qu'ensuite, donc voilà, Saints Row 4, il divise un petit peu plus. Et en fait, c'est un peu le début de la fin pour la saga. En gros, pour faire bref, donc il y a eu ça, qui était censé être un standalone qui finalement est un jeu à part. Et après, vous avez eu l'extension de l'extension avec Gat Out of Hell, qui est très fun. Moi, je trouve ça très rigolo et tout. Où c'est du coup le personnage de Gat qui est un des membres des Saints qui, du coup, là, est mort dans le troisième jeu et donc se retrouve en enfer.
Il faut qu'il sorte.
Donc, vous jouez en mode monde ouvert en enfer où il est là, il fout le sbeul avec le diable. Et c'est vraiment rigolo. Et en fait, c'est le début de la fin parce que le studio, en fait, THQ, la maison mère qui tenait Volition, elle s'effondre à ce moment-là. Il y avait donc pas mal d'échecs commerciaux. J'ai vu qu'il y avait la Hudro, apparemment c'était une tablette de dessin ou je sais pas quoi qu'ils ont fait, qui était un échec économique et tout, donc désastreux. Et d'autres licences aussi marchaient pas autant. Donc ils ont dû vendre leur licence et ils l'ont vendu, notamment Saints Row, c'était racheté par Deep Silver à ce moment-là.
C'est ça.
Et en fait, le truc avec Deep Silver, du coup, c'est que. Je crois qu'ils avaient repris déjà donc Saints Row 4 et tout. Peut-être à ce moment-là que ça s'est fait. En plus, peut-être au niveau de chronologie, je me suis peut-être un peu chié, pardon. Mais en fait, ils ont fait un autre jeu avant le reboot. Parce qu'il y a eu un reboot de Saints Row qui a marqué la fin du studio et de la saga. Donc, le Saints Row, tout court, sorti en 2022. Et avant ça, il y a un jeu qui est sorti. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Will. Agents of Mayhem.
Oui. Oui, oui, oui.
Et bah, genre, c'est marrant parce que je l'ai revu en faisant mes recherches sur les jeux développés par le studio. Et pour vous donner une anecdote, je pense que c'est le pire jeu que j'ai jamais acheté, ou plus exactement, les 12 euros que j'ai le mieux gâché de ma vie. Vraiment, c'est. Je l'avais acheté sur Xbox One, il était en promo, il y avait un pack premium, ça, le truc devait coûter genre 80 euros et tout. Je dis, ouais, ils font un pack avec tous les skins et tout à 10 euros. C'est par les mecs qu'on fait Saints Row, mais c'est une affaire en or. Je l'achète, j'ai joué genre 5-10 heures. Et c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Ouais. En fait, c'est un sous Crackdown, sous Saints Row, mais c'est plus proche d'un Crackdown qui est aussi une licence morte. Mais voilà, où du coup le principe d'un Crackdown, on l'a vite fait évoqué je crois dans l'épisode sur 2007, mais c'était une licence donc de chez Xbox, de Microsoft, où vous jouez une sorte de super flic avec des super pouvoirs qui se balade encore dans un monde ouvert, mais où du coup il y a une liberté de mouvement et d'action qui était assez jubilatoire aussi. Crackdown 1 et 2, ce sont de très bons jeux, c'est quand même assez culte. Et Angels of Mayhem, c'est une sorte de truc où vous jouez pareil des agents bah, du coup avec des super pouvoirs, des sortes de super héros du gouvernement qui se battent contre les super méchants, donc il y a un côté très comique, c'est tout ça. Mais la physique, elle est désastreuse, le gameplay, il est chiant à mourir, c'est moche de ouf, c'est vraiment laid, alors que c'est censé être un nouveau moteur qu'ils avaient et tout. Donc le jeu, je crois qu'il s'est vendu à, j'ai envie de dire, 300 000 exemplaires, mais il s'est vendu apparemment à des miettes. Et du coup, donc Angels of Mayhem, lui sorti en 2017, c'est un échec. Et un an après, ils se font quand même racheter par Embracer, voilà, qui est une autre boîte, une autre
qui
compagnie.
Qui est un groupe d'investissement suédois.
Voilà. Et en fait, donc après l'échec de Angels of Mayhem, le studio il perd un peu de sa superbe quand même. Et donc le dernier espoir, c'est un reboot de Saints Row. Ils tentent de revenir en fait à quelque chose de plus terre-à-terre, vraiment à revenir un peu aux sources de la licence. Donc ils font en 2022 Saints Row. Et qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce Saints Row 2022
Ça ressemble à Fortnite. Premier degré, ça ressemble à Fortnite et pas dans le bon sens du terme.
Ouais.
Où en fait, il y a quelque chose de... Bah, il y a plus cet ADN Saints Row, en fait. Il y a vraiment plus ce côté goofy. Je veux dire, c'est même pas une question de est-ce que c'est un bon ou un mauvais jeu. Non, en fait, c'est un reboot de Saints Row, mais visuellement, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est vraiment perdu. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'est perdu dans la licence. Et le fait que ce soit un reboot, c'est pas juste Saints Row 5. C'est vraiment, on revient à la base, on essaie de redéfinir un peu Saints Row. Mais il y a... La proposition est tellement fade qui... Je me souviens déjà quand le jeu avait été annoncé à l'époque, tout de suite les retours étaient vraiment pas bons vis-à-vis du public et même de la presse qui était en mode mais il y a quelque chose de très très fake en fait, il y a quelque chose de... On déjà, parlait déjà était... un peu de slop ouais. un peu à l'époque.
Le jeu était sorti assez buggé aussi, il y avait pas mal de bugs dès qu'il est sorti et tout, visuellement c'était pas très joli, en tout cas sur console, je crois que sur PC, je sais pas si c'était un peu mieux, je crois que ça pouvait être un peu plus propre, on va dire ça comme ça, mais c'était pas spécialement mieux. Et en fait ouais c'est un jeu qui est d'une... Je trouve que c'est un jeu qui est fade. Moi je l'ai fini sur PS5, je l'ai revendu après sur Vinted à quelqu'un pour 15€ je crois. Donc je l'ai plus chez moi et j'en suis pas mécontent. Le jeu ne me manque pas parce que faut se dire que donc voilà il y a là ce qu'on vous a évoqué un peu c'était les piliers de Saints Row, c'était la personnalisation, le monde ouvert bac à sable où vraiment vous avez une liberté d'action assez folle et une galerie de personnages même si on n'a pas évoqué les persos genre le boss Pierce qui était son meilleur pote Renoir, hyper cool, avec qui il chante en bagnole et du Bismarcky. Vous aviez Gat.
Les antagonistes aussi.
Il y a les antagonistes.
Shador.
Ouais, c'est ça. qui était super. Paré. Donc c'était une galerie de personnages qui était assez marquante, malgré tout, dans les Saints Row, même si c'est pas le scénario qui était le point fort. Là, dans le Saints Row 2022, en fait, c'est... Déjà, oui, tout le monde a dit ça ressemble à du Fortnite. C'est-à-dire qu'on voyait la première introduction, bande-annonce en cinématique. C'est une ville très réaliste avec des personnages très cartoonesques. Du coup, on se dit, ok, je comprends pas trop, c'est quoi l'esthétique, la DHR.
Dans le délire un peu, genre californien, un peu, je me souviens, c'était
ouais,
un peu désert.
Parce que du coup, oui, c'est l'idée, c'est très Las Vegas, en fait. La ville qu'on explore, j'ai oublié le nom des villes fictives de Saints Row et de celui-ci. Mais du coup, celle de Saints Row 2022, c'est un désert avec une ville au milieu, donc très Las Vegas et tout. En fait... Pas grand chose à y faire, les missions sont extrêmement mal construites en termes de game design, de level design, le gameplay est plat de ouf. Là où c'est un truc qui était quand même une force de Saints Row, c'est que les sensations de tir, de combat, quand on fait des prises de catch, de course-poursuite, la physique avec les véhicules et tout était plutôt cool. Là, la physique avec en voiture, je trouve qu'elle est pas... Tu sens qu'il y a un truc qui est quand même encore un poil présent, même avec des véhicules volants et tout, mais c'est aseptisé à mort. C'est un truc que tout le monde dit, c'est un truc que Conquerax, j'ai regardé sa vidéo du coup sur la licence Saints Row, il a fait une vidéo très sympathique si vous voulez un truc plus en détail qui dure 40 minutes, où il dit voilà que c'est un jeu qui est aseptisé en fait, qui a plus d'identité, et c'est très le côté corpotrap qu'on aime pas. Il y a eu une période dans le début 2020, toutes les bandes annonces de jeux c'était reprises en mode fou, avec de la, enfin bref, corpotrap quoi. Et c'était vraiment mauvais, et il y a ce truc où tu vois ça, tu dis ok je vois des exécutifs presque essayer de me charmer. Et donc le principe là du jeu, c'était de partir en mode nobody pour recréer son clan, son gang, et du coup reprendre la ville. Sauf que la galerie de personnages, c'est genre une nerd, un beau gosse un peu écervelé qui a son casque, je sais pas, qui est DJ, ton personnage qui est random, qui est, pour le coup a pas trop de personnalité, alors que je trouve que malgré le fait qu'on le personnalisait dans les premiers, je vois ce qu'il me fait au bout de la tête, mais il avait une personnalité folle. Déjà parce que aussi Troy Baker pouvait le doubler, tu pouvais choisir deux ou trois voix, t'avais aussi Nolan North je crois. En voix originale que tu peux choisir, donc rien que cette ouverture là, que ce soit homme ou femme, ils avaient vraiment des VO doubleurs incroyables, notamment Keith David qui est dans tous les Saints Row, qui n'est pas dans 2022 je crois, et c'est dommage. Donc c'est un jeu qui rate sa cible, qui s'est vendu moins que le premier Saints Row sorti en 2006. Il s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires, donc c'est un échec commercial vraiment ce Saints Row là et tout. Et donc un an après, en 2023, Volition, le studio derrière cette saga quand même assez mythique et qu'on apprécie énormément avec Swill, ferme ses portes.
Encore plus de ouais, fermer les portes, c'est là tout juste récemment, c'est il y a quelques semaines, le directeur artistique de Saints Row avait dit que ouais, le groupe Embracer n'avait aucune volonté de faire quoi que ce soit avec la licence, cette licence-là, qui était vraiment bah, du coup une licence... était du coup ça qui fait mal à dire, chers ouais. Était une licence qui était vraiment culte, mythique, de la fin des années 2000. Et le fait de voir ce traitement-là de la part d'un groupe voilà, qui pèse énormément à ce point, c'est extrêmement rageant, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls, parce que moi, de mon côté, bah, je vais parler d'Electronic Arts, qu'on adore détester.
Les gentils de l'industrie.
Les gentils de l'industrie. que je vais appeler IE parce que ça va être plus simple. Et un peu comme Saints Row, du coup, IE en fait avait une licence du coup, bah, qui se situe au milieu des années 2000, plus précisément du coup en 2007. Et cette saga-là, elle est vraiment culte chez les fans de jeux de sport extrême. Et ce jeu-là, c'est Skate. Il y a vraiment, voilà, dans on va dire le panthéon des jeux de skate, il y a Tony Hawk Pro Skater qui se situe tout en haut, mais il y a vraiment, voilà, dans les jeux de la 7e génération, la saga Skate, elle est vraiment big. C'est une saga qui est sortie du coup en 2007. Il y avait quelque chose de très réaliste, mais en même temps assez goofy, avec du coup, pareil, la physique et tout, qui était tellement taré. Je sais pas si vous, peut-être, vous voyez des clips avec des mecs qui font des skins de Jésus et qui prennent des tremplins. Et ils mettent du Pearl Jam en fond et il fait genre du coup la T-pose et genre c'est totalement taré. Et donc voilà, Skate, même surtout Skate 3, voilà, c'est trois opus qui sont sortis lors de la même génération. Il y a même eu un spin-off sur la Wii qui s'appelait Skate It. J'avais même pas
assez de découvrir. Ok, ça je pas non plus.
Et donc c'était vraiment une licence qui du coup s'était arrêtée en 2012 et qui avait vraiment marqué les fans. Genre franchement, il y avait vraiment une grosse communauté fan de ce jeu. Et pendant très, 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 très longtemps, Skate était laissé à l'abandon. EA avait totalement laissé, mais ça fait partie de pas mal de licences de sport qu'avait EA à l'époque. Moi, par exemple, je suis un immense fan de SSX. Il y a eu un reboot en 2012, ce genre de choses. Donc... Et après ça, en fait, il y a eu une sorte de passage à vide où vraiment, pendant 10 ans, on n'entendait plus parler de cette saga alors que les fans vraiment demandaient le retour de Skate. Et en fait, en 2020, EA donne la licence à Full Circle avec du coup une annonce qui est faite en mode voilà, c'est un reboot, ça va s'appeler Skate. Et 5 ans après l'annonce, donc en septembre 2025, le jeu sort et c'est un free to play. C'est en termes de DA, on était déjà en mode oh, c'est ok tiers, ça revenait vraiment à la patte que pouvait avoir la première trilogie. Et donc, surtout que les chiffres au début étaient vraiment assez corrects. On parlait, voilà, du coup, de 15 millions de joueurs, mais bon, c'est un free-to-play, donc c'est à nuancer, ouais, quand même. Et surtout, bah, en termes de politique et de business model, bah, c'est pas dingue, parce que après 6 mois, du coup, depuis septembre, voilà, après la sortie du jeu, il y a un petit communiqué qui est fait par Full Circle disant que... on va procéder à une vague de licenciements dans le studio Full Circle. Dans le communiqué, on ne sait pas combien s'élève le nombre de licenciements. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas chouette, peu importe le nombre. Mais c'est un aveu de défaite assez criant, en fait, parce que au-delà de ça, il y a eu pas mal de mensonges qui ont été faits de la part de EA. C'est-à-dire qu'ils avaient promis que ce serait un free-to-play, mais qu'il n'y aura pas de paywall majeur. De paywall majeur, c'est-à-dire en mode du contenu caché derrière un paywall, bah ils ont menti. Il y a littéralement une partie de la map qui est du coup il faut payer pour accéder à certaines zones du jeu. C'est pas juste voilà des microtransactions qui se cachent derrière des cosmétiques qui sont en mode chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Là, c'est vraiment pour accéder à des zones du jeu, il faut payer pour un jeu qui est free to play à la base. Donc en termes voilà de business économique, c'est pas ce qu'on apprécie le plus, c'est pas ce qui est le plus souhaitable, je le pense. Donc voilà, en fait, avec IE, je vais très vite.
Rebondir là-dessus, très rapidement par rapport au côté microtransactions, juste c'est l'exemple aussi de Burnout. Je voulais pas vraiment en parler, moi, du coup. Je me suis dit, on va pas faire ça sur toutes les licences. Mais Burnout, du coup, qui était une licence qui a été rachetée par Electronic Arts parce qu'ils voulaient le moteur technique, apparemment, le moteur graphique, pardon, qu'ils utilisaient, qui était un moteur graphique qu'utilisait PES à l'époque, autre licence morte un peu. Et en fait, bah, Burnout, si la saga n'existe plus actuellement, et ça je l'ai pareil vu en regardant une vidéo de Conquerax, donc encore shout out, c'est qu'en fait personne, genre aucun constructeur automobile voulait des partenariats et faire figurer ses bagnoles dans un Burnout, parce que le principe du jeu c'est de casser des voitures, c'est de les détruire, c'est de faire du derby, c'est de faire du score là-dedans. Donc entre Need for Speed et Burnout, Electronic Arts s'est dit Burnout on en a pas besoin, et donc le studio Criterion qui est derrière, on va plutôt partir sur Need for Speed, parce qu'avec Need for Speed on peut faire des microtransactions, on peut vendre des voitures, on peut vendre des licences, on peut avoir de la Porsche, de la Lamborghini en plus, etc. etc.
Donc voilà, vous prenez en fait... je pense qu'il faut prendre des notes sur le business sur le modèle économique de IE, c'est-à-dire, bon, en fait, vous prenez une série que les gens adorent. Sincèrement, c'est une série qui est adorée par les fans. Vous en faites un jeu à service, si possible free-to-play. vous bombarder de paywall, de microtransactions infâmes. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à mentir aux joueurs en disant qu'il n'y aura pas de paywall. Et 6 mois après, virez les devs. Comme ça, vous ferez des coupes budgétaires, vous ferez encore plus de marge. Et moi, je trouve que c'est voilà, du coup un excellent pari fait par une entreprise du coup rachetée à hauteur de 55 milliards de dollars par un fonds d'investissement saoudien. Bravo, Yé. Voilà, qui sait du coup comment traiter. On remercie l'Arabie Saoudite et le gouvernement saoudien qui, je pense, sait comment traiter les fans d'une licence qui ont attendu près de 10 ans pour son retour. Voilà. Shout-out à l'Arabie Saoudite.
C'est vrai qu'en plus, ça, c'est tout un sujet aussi par rapport au fait que Battlefield 6, je crois, qu'est sorti au moment où il y a eu le rachat. Donc, il y a un peu la question de c'est quoi l'avenir pour les grosses licences du côté d'Electronic Arts, de voir un peu ça va être quoi leur ligne éditoriale, les licences qui vont, comme Skate en fait, décider de maintenir, en mode on va encore mettre de l'argent dedans et tout, ou celles ils vont dire ok, on retire la prise, c'est bon, tu vois, on arrête les frais. Genre des Battlefront, des choses comme ça.
Ou Dead Space.
Ou Dead Space.
Aïe aïe aïe.
Ouais, bah Dead Space, dans ma tête, c'est une licence morte.
Oui.
Par exemple, je pense que le Dead Space Remake, c'était une tentative de remettre du coup Dead Space en licence en avant, sur l'horreur et tout. Comme les remakes de Resident Evil l'ont fait, et RE7, etc. Bref, mais du coup, vu qu'apparemment les ventes n'ont pas été au rendez-vous,
et surtout depuis le rachat de EA par le
l'Arabie Saoudite, je pense que même si le jeu a été extrêmement bien accueilli en termes de critiques et de public et de joueurs, c'est il y a très 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 peu de chances qu'on voit un prochain Dead Space. Alors même que c'est Glenn Schofield, je crois, le créateur original de Dead Space, qui a fait le malheureux Callisto Protocol pour essayer de trouver quelque chose qui est pas très bien. Il a quand même pitché, je crois, un nouveau jeu Dead Space à Electronic Arts, mais là récemment, hein, dans les derniers mois. Et apparemment, il n'y a pas grand chose qui se débloque, ça parle pas à grand monde dans les exécutifs. Donc, ouais, c'est malheureux.
Mais dans tout ça, il y a quand même des licences. Voilà, on est là, vous savez qu'on est ronchon chez RNG quand même. Genre, on est ronchon, on aime bien les trucs, mais quand même, il y a des bons élèves, il n'y a pas que des bonnes édanes. Et je pense qu'on peut distribuer des bons points.
Ouais, de ouf.
Est-ce que je commence? Tu commences? Qu'est-ce qu'on. Je peux distribuer peut-être un bon point si.
Vas-y, ok, il y a une licence moi que j'aimerais aborder rapidement parce que j'ai cru que c'était une licence morte. En mode vraiment, je me suis dit, ah, c'est sûr, elle est morte. Et en fait, elle est un peu revenue, mais c'est sur des laps de temps très courts. Mais moi, je voulais parler de l'exemple de la saga Mafia, de la licence Mafia, parce que donc Mafia 1 et 2, je suppose, je crois, c'était développé par les mêmes mecs globalement ou des équipes assez similaires, voilà. Et par contre, Mafia 3, donc Mafia 2 était sorti en 2011, Mafia 3 c'est 2015. Ça a été développé par Hangar 13, qui était donc un autre studio, sous Teke, pardon. Et Mafia 3 a été très 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 mal reçu. En tout cas, c'était très mitigé. C'est-à-dire que du coup, les gens appréciaient l'histoire, vu que c'est quand même le sel de la saga Mafia. C'est des jeux qui ne sont pas vraiment là pour concurrencer les GTA. C'est vraiment, c'est très narratif dans le crime, en mode un peu monde ouvert. Mais c'est faussement libre, c'est vraiment beaucoup plus serré qu'un GTA, encore plus bien évidemment qu'un Saints Row. Et du coup, ce que proposait Mafia, c'était l'immersion. C'était l'idée vraiment d'avoir des tranches d'époque dans les années 30, 50, 60, du coup 70 là avec Mafia 3. Mafia 3 est un échec, vraiment c'est un échec commercial je crois, c'est un échec aussi critique. Et donc on n'a pas eu de grosses nouvelles d'Hangar 13 pendant un bon moment, jusqu'à... je crois que c'est 2019-2020, on a eu du coup le Mafia Definitive Edition, qui est un remake du premier. Et là, en 2025, on a eu un Mafia The Old Country. Et c'est un peu une belle chose, je trouve, que le jeu ait plutôt bien marché. C'est un scope plus bas. Ils ont dit que voilà, c'était encore moins ouvert, il y a quasiment pas d'activité à faire dans le monde. Mais c'est très bien narré, c'est très joli. Et on voit qu'une licence comme ça, qui était en perte de vitesse, il faut quand même se dire que du coup, il y a eu... là, en 10 ans, il y aura eu 3 jeux, à peu près 11 ans. Mais sur ces 3 jeux, il n'y en a que 2 qui sont vraiment nouveaux. Quoi. Il y en a un, c'est un remake. Si on prend Resident Evil, la cadence, elle est vachement plus rythmée. Donc, je trouve que c'est un bel exemple d'une Sega qui a réussi à éviter un peu la porte. Où je pense que, en tout cas, il pourrait se dire, on a GTA, on n'a pas besoin d'un autre sous open world. Et finalement, c'est une licence qu'il a avec son dernier titre, a réussi à garder l'ADN de « c'est très cinématographique, c'est bien narré ». C'est hyper tenu, c'est joli, et c'est une immersion dans une époque qu'on connaît pas.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Et de mon côté, je pense que si on devait, je pense, donner un bon point en mode, en termes de gestion de licences un peu mortes, bah, incroyable mais vrai, mais je vais donner un bon point à Konami, qui l'eût cru. Entreprise qui, voilà, a quand même pas mal de casseroles aux fesses, avec sa gestion, du coup, de sa licence Silent Hill, licence dont on a un peu parlé lors de notre tout premier épisode sur RNG, licence absolument mythique, et en fait le problème avec Silent Hill rapidement, parce que du coup c'est une licence qui a eu son âge d'or au début des années 2000 avec le Silent Hill 1, 2 et 3, voire même le 4, on peut mettre Silent Hill The Room dedans, allons-y. Et ensuite c'est une licence qui a eu quand même eu un coup de mou, un peu comme le genre, c'est-à-dire après 2006-2007 avec, je pense aux opus sur PSP, je pense à Downpour, tous ces jeux-là Silent Hill qui sont pas les plus aboutis, disons. Et après ça, Konami a vraiment laissé Silent Hill de côté jusqu'au fameux projet avec Kojima, pardon, qui va être qui a été vraiment un moment majeur pour Kojima, mais aussi Konami en termes d'image, où vraiment le fait que Konami ait absolument annulé le projet du jour au lendemain. On en a parlé, je crois, dans les jeux cultes de PT.
Ouais.
Silent Hill était devenu tout simplement vraiment une licence morte depuis 2012, du coup, parce que le dernier jeu datait de 2012. On s'attendait, du coup, à un reboot avec Kojima et Guillermo del Toro derrière, qui ne verra pas le jour. Et du coup, il aura fallu attendre, tout simplement, 2024, 12 ans après.
Ah, quand même.
Et ce jeu-là, je pense que c'est peut-être la... Tu vois, quand on parlait de business model, de manière de revitaliser une licence, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qu'on ait pu faire en fait à Silent Hill. Et ce jeu-là, c'est Silent Hill The Short Message. On est 12 ans après le dernier Silent Hill et Konami a mis à sa tête, dans le projet Silent Hill, un certain Motoi Okamoto qui tout simplement, dans une interview que je suis allé chercher sur YouTube, une interview dans laquelle il dit, vis-à-vis du coup du jeu Silent Hill The Short Message, il disait que... En 2020, on savait que, voilà, il y a énormément de fans de Silent Hill dans le monde entier. On sait que c'est une licence extrêmement importante. Et même chez Konami, Silent Hill est une série que l'on affectionne. Je voulais donc que ce soit Konami qui développe eux-mêmes le prochain jeu Silent Hill. Mais le dernier Silent Hill développé par Konami eux-mêmes, c'est pas le Silent Hill de 2012. Il faut remonter à Silent Hill 4 The Room de 2004. Donc ça date. Et c'est tout simplement pas les mêmes développeurs, en fait. Et il dit... J'avais peur que, des années plus tard, presque 20 ans plus tard, nous ayons oublié cette expertise dans la création des jeux d'horreur. Nous avons donc opté pour des projets plus courts et expérimentés afin de redéfinir notre capacité à créer des expériences horrifiques. C'est un passage qui transpire l'humilité et aussi l'aspect, ce fait-là d'admettre que ah les gars, peut-être on est wash, on sait plus, peut-être ouais. On sait plus le faire en fait. Et cet aspect un peu humble vis-à-vis de la licence et surtout cet aspect aussi d'expérimentation. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que on est en 2023 et le remake de Silent Hill 2 est annoncé. Et ce que va faire en fait que Konami, c'est qu'ils sont allés vers un autre studio japonais qui s'appelle Exadrive. Et en fait, c'était Exadrive qui avait proposé à Konami un projet de remake de Silent Hill 2. Et en fait, Konami avait tellement apprécié la démo que Exadrive avait fait. Ils avaient vraiment considéré Exadrive comme le studio qui allait pouvoir faire le remake de Silent Hill 2 avant en fait de revenir sur cette décision et de proposer à la Bluebird Team, du coup un studio polonais qui nous a offert les Layers of Fear, les The Medium.
Chronos, du coup.
Chronos. Donc Konami s'est positionné et a du coup proposé du coup le remake à la Bluebird Team, mais en fait ils avaient tellement été touchés par l'amour qui a été porté de la part d'Exadrive qui en fait ont décidé, voilà, on a ce projet là qui est du coup Silent Hill The Short Message et on veut que ce soit vous qui soit derrière. Et du coup voilà, 12 ans plus tard, après voilà une licence qui a eu vraiment des bas, c'est vraiment une licence qui est allée en profondeur, et c'est un jeu qui est gratuit. C'est un jeu qui fait 2 heures. C'est un jeu qui, en plus, en termes de ton, est tellement moderne, en fait. Il y a vraiment cet aspect où Silent Hill, en plus de ça, c'est que Konami a conscience que il parle à un nouveau public, un public qui est certes bah, du coup moderne, mais qui passe par des problématiques différentes. C'est un jeu qui va parler de cyberharcèlement, qui va parler de suicide. Voilà, donc c'est des sujets qui sont font sens vis-à-vis de Silent Hill. C'est une saga d'horreur, fourchette dans cuisine, si je puis dire. Mais il y a vraiment ce côté de on. Il y a un amour en fait pour la licence Silent Hill qui est que on peut proposer un remake de Silent Hill 2 à un public nouveau, mais en même temps on peut proposer des petites expériences qui vont permettre du coup de déjà redorer son blason et aussi de remettre l'église un peu au centre du village en fait. Et je pense que le faire de cette manière là avec un jeu qui était présenté, je me souviens, dans un State of Play tout bête en mode voilà c'est un jeu Silent Hill,
ouais,
c'est gratuit,
un Shadow Drop,
c'était Shadow Drop, vraiment c'est un jeu, il est gratuit, il existe, il est là, prenez-le. Et c'est un jeu voilà, sur Unreal Engine 5, visuellement bon, il y a des qualités, il y a des défauts, tu vois, mais il y a vraiment un côté de c'est une lettre d'amour. Et le fait que 12 ans après voilà le dernier titre on ait un jeu comme ça gratuit qui aille vers le public, bah c'est comme ça qu'on revitalise en fait une licence morte, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce côté de c'est fait avec humilité et surtout respect pour la dimension créative du jeu. Et vraiment ce côté vraiment Konami sait que ils n'ont plus les capacités peut-être en interne pour produire un jeu d'horreur de cette ampleur, et donc ils vont vers d'autres studios. Je pense à du coup Silent Hill F qui est fait par Neobard Entertainment, qui est du coup un studio taïwanais. Donc vraiment en plus voilà ça se délocalise, et je trouve que c'est vraiment une approche qui est extrêmement bénéfique. Et on l'a vu, voilà, le remake de Silent Hill a très bien marché. Silent Hill F en termes de voilà de critique aussi, ça a été un jeu majeur de l'année dernière. Donc là-dessus, ouais, bon point à Konami. Je veux dire, il y a quelques années, c'était des gens qui faisaient des NFT avec Castlevania, tu vois. Donc en termes, voilà, Castlevania qui est aussi une licence morte, en attendant du coup le prochain jeu qui sera développé par Motion Twin, qui sont français en plus, qui ont fait Dead Cells.
Donc, bah, c'est plus une licence dormante un peu, parce qu'il y a toujours des petits trucs Castlevania par-ci par-là, tu vois. Ouais, mais des gros titres.
Ça remonte à 2014 avec Castlevania Lord of the Shadow 2.
Ouais.
C'est pas bien, ça date quand même.
Mais il y a des collabs et tout. Voilà. Enfin, tu sens que c'est une licence.
Il y a une série Netflix aussi.
Ouais,
d'ailleurs.
Une série Netflix. Tu sens qu'ils surfent sur quand même la popularité de l'aura, entre guillemets, qu'a cette licence. C'est vrai. Ouais.
Mais voilà. Donc voilà, en termes de manière, je trouve que voilà, Konami, comparé à peut-être un Electronic Arts, il y a des leçons, je pense, à prendre de tout ça.
Ouais, ouais.
Mais du coup, dans tout ça, nous, on voulait revenir un peu sur la. Dans tout ça, en fait, toutes les licences mortes, on est là en. Moi, j'aimerais bien revoir un Saints Row, j'aimerais bien revoir un Dead Space et tout, mais ce qu'on apprend un peu de tout ce qu'on a dit, c'est en mode, est-ce que le paysage, l'environnement économique de l'industrie du jeu vidéo, quand on le voit, est-ce qu'on peut souhaiter, est-ce qu'on considère viable le retour de certaines licences, en fait ? C'est ça un peu la question qu'on pose, et surtout vis-à-vis aussi, moi j'aimerais aussi... élargir aussi vis-à-vis du rapport que le joueur entretient à ses licences. Et moi, en fait, je voulais aussi parler de PlayStation, vis-à-vis de ça. PlayStation, on sait que voilà, Sony a un panthéon de licences absolument énorme. Les Sly Cooper, les Killzone, les Infamous, voilà, des jeux qui datent un peu voilà, du milieu des années 2000. 2010 aussi, je pense à la saga Infamous. Toutes ces licences-là, elles sont un peu... Bah, enterré la plupart de ces studios-là, je pense à Sucker Punch, ils sont passés à autre chose. Je veux dire, il y a eu pas mal d'opus Infamous, il y en a eu genre 3 ou 4, mais on sait que Sucker Punch est totalement passé à Ghost of Tsushima. Et il y a quand même, voilà, toujours dans les débats, de la part des gamers, une envie, en fait, d'un retour de ces licences. Je pense à Killzone, qui a été fait du coup par Guerrilla Games, qui est connu aujourd'hui pour sa saga Horizon, qui nous sort 1 milliard de titres par semaine. Et donc, non, en fait, moi, ce que j'aimerais te poser la question, Ulysse, je te mets sous le projecteur. Prenons Killzone, prenons peut-être Infamous. Est-ce que, ou je sais pas moi, Sly Cooper, est-ce qu'on a besoin du retour de ces licences ?
Je pense que non, et je pense même que c'est une bonne chose, personnellement. En fait, moi, en réfléchissant à la question de ces licences mortes, je me suis dit, il y a une chose qui est regrettable, c'est que, quand on se pose la question de pourquoi une licence est morte, c'est parce que, du coup, souvent, les studios ont fermé. Ça, c'est personne le souhaite. Je pense que personne dans le jeu vidéo, aucun joueur se dit « Ah, j'aimerais que tel studio ferme Par exemple, on l'a vu du côté de Sony avec le studio Bluepoint, justement, qui était un studio qui était expert dans les remakes, en fait, dans les remakes remasters, on pourrait dire, mais qui refaisait vraiment des refontes graphiques absolument incroyables. On a vu sur les réseaux sociaux des gens se réjouir que ah bah Bluepoint ne pourra pas toucher à un potentiel remake de
Bloodborne
par exemple. Et je trouve que c'est assez j'ai envie de dire pitoyable, mais c'est triste en fait de se réjouir qu'un studio ferme. C'est des talents, c'est des développeurs qui font vivre notre passion, et quand on voit le résultat de leur Shadow of the Colossus en remake, de leur Last Guardian, de leur Demon's Souls remake, on aura beau me dire ah mais la DA elle essayait ça, le jeu a jamais aussi bien tourné et était quand même propre techniquement.
C'est un bijou encore aujourd'hui, hein, visuellement.
Voilà, donc je trouve que peu importe l'amour ou la haine qu'on a envers un studio de jeux vidéo pour ses propositions ou autres, on peut pas souhaiter le départ des talents. On a besoin que l'industrie justement garde ces profils-là pour aller de l'avant, pour progresser et pour qu'il n'y ait pas une fuite en fait. Et donc, malgré ça, je trouve que s'accrocher à des licences passées, c'est un peu comme s'accrocher à des vieux jouets en fait. Je trouve que ça devient des coquilles vides, parce que si les talents ne sont plus derrière, c'est un peu la question qu'il y avait avec Silent Hill, si les développeurs originaux ne sont plus là, qu'est-ce qu'elle devient cette licence en fait? Et donc on peut se poser la question, c'est des coquilles vides en fait. Que va devenir, ou qu'est devenu Halo sans Bungie à sa tête, qu'est devenu Uncharted sans Amy Hennig, Bruce Straley et Neil Druckmann, Capcom, enfin Resident Evil, sans le fameux, tu vois, directeur créatif derrière, j'ai oublié son blase.
Shinji Mikami,
voilà, exactement, qui a fait après donc The Evil Within. Donc, et justement, l'exemple de The Evil Within, en plus je voulais venir, je me spoil moi-même, c'est que je pense qu'il ne faut pas s'attacher à des licences, mais que des idées de gameplay, des idées de jeu en tant que telles, elles peuvent vivre parmi d'autres créations, parmi d'autres IP. Je pense que c'est pas grave qu'on perde certaines licences, je pense qu'il faut... Il faut faire attention au piège en fait. Il faut faire un peu attention à ce piège corpo qui peut créer des licences aussi, ou faire revenir des licences juste par nostalgie et pour vider le portefeuille des joueurs. Et d'autant plus que la plupart des licences qui, je pense, ont disparu, c'était souvent en concurrence avec un jeu dans le même genre. Killzone, c'est plus là parce que Halo l'a tué, entre guillemets. Enfin, Halo a tellement roulé dessus, Killzone n'a jamais réussi à se faire sa place. PES, FIFA, c'est pareil. Si PES a jamais pris vraiment sa place, c'est parce que pendant un moment donné, c'était un peu coude à coude. T'avais des mecs qui préféraient PES, d'autres FIFA, ça se tenait. Depuis 10 ans, personne ouais, joue à
FIFA 10, hein. C'est... Ouais. Ouais.
C'est comme ça. Donc, moi, je suis pas pour le retour de très 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 vieilles licences. Je pense que c'est un truc qu'avait aussi dit à Miyamoto par rapport à F-Zero. Il a dit qu'il était étonné que les joueurs attendaient encore des retours de cette licence. F-Zero, c'est un jeu de course.
Avec Captain Falcon.
Ouais, c'est ça. De vaisseaux spatiaux, le personnage de Smash, pour ceux qui n'ont pas joué à F-Zero. Voilà. Et en fait, bah, je comprends pourquoi il dit je ne comprends pas que les gens attendent encore cette licence-là. Pour lui, de ce qu'il disait un peu, j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à refaire d'autre avec F-Zero. Il trouve que Mario Kart, c'est un peu la continuité du jeu de course, dans ce qu'ils peuvent développer. Et puis aussi, ça marche mieux, sûrement, en termes de vente et de panache avec Mario et Luigi, tout ça. Mais ouais, il y a ce truc où je pense que ça ne sert à rien de tirer des licences juste pour le blaze. Si on n'a rien d'autre à en faire, en fait. C'est comme des films. Vous n'avez pas envie... C'est pas parce que vous aimez des personnages ou... Vraiment, ouais, juste des personnages, un peu des doudous et des jouets que vous devez les retrouver pendant 10, 15, 20 volets. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'amener des concepts de jeu ailleurs. Et soit ça passe par des licences qui peuvent encore évoluer, et si elles n'ont pas eu cette chance-là, par ces talents qui peuvent créer autre chose avec.
Bah, je trouve qu'au-delà d'être une excellente tech, je trouve que c'est une excellente conclusion, en réalité. Surtout qu'on a vu à quel point ça pouvait revitaliser des licences, de changer de directeur, je pense à ouais. Resident Evil. Le fait que ce soit une licence qui a autant de hauts et de bas, mais dans le bon et le mauvais sens du terme, c'est en fait, ça crée une licence qui est extrêmement riche. On parle d'une licence qui a plus de 20-25 opus à ce jour, et il y a tellement de Resident Evil qui existent un peu que ça à la fois, oui, il y a du bon et du pas bon, tu vois, mais genre. Ce que ça fait, c'est que ça crée vraiment un matériel qui est dense, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment souhaitable, je pense, pour l'industrie, le fait de, vis-à-vis des gamers, de se détacher peut-être un peu de tout ça, d'avoir un rapport peut-être un peu plus sain à ces licences-là, et essayer aussi d'ouvrir aussi ces horizons à des, peut-être des descendants spirituels,
ouais,
j'ai
voilà,
envie de dire.
Exactement,
tu vois.
C'est ça.
C'est-à-dire, vous avez adoré BioShock, ah, y a quand même des jeux 10 ans après, je sais pas, des Dishonored, et après, voilà, il y a eu un Deathloop, il y a eu, je sais pas, genre, les choses sont...
Bah, ça me fait penser, j'avais une question justement par rapport à toi là-dessus, parce que j'ai appris ça, c'est, est-ce que tu attends un éventuel Bioshock 4, qui apparemment est en développement, on sait juste ça.
Non. avec tout le respect, parce que Bioshock, j'ai moins d'affect que toi, par exemple, Ulysse, okay. Mais je tuerais pour... C'est-à-dire, moi, ma montagne, c'est Bioshock 1 et 2, et je trouve que c'est des jeux, c'est des chefs-d'œuvre, sans souci, mais je vois pas trop l'intérêt du retour d'un... Même d'un point de vue de l'immersive sim, il faudrait vraiment, vraiment redéfinir ce... Déconstruire, en fait, Bioshock, qu'en fait, à la fin, ça... Il n'y aurait même plus vraiment d'intérêt à l'appeler Bioshock, en fait. Du coup, il faudrait faire quelque chose de vraiment différent. Et je pense, puisque du coup, c'est Take-Two.
C'est Take-Two, ouais.
C'est Take-Two qui a la licence. Ils vont revenir et avec un Bioshock 4, j'en suis persuadé. Mais à quoi bon ? À quoi bon, j'ai envie de dire, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier au retour d'une licence, sachant qu'elle est vraiment marquée par son créateur, Ken Levine. Surtout pour le premier, je sais que le 2, Ken Levine ne l'a pas supervisé, mais en termes de gameplay, le 2 a vraiment énormément de richesse et l'histoire est vraiment sympa. Et toi, Bioshock 4 ?
Bah justement, je ne l'attends pas. En fait, je me suis fait la remarque que c'est mon jeu préféré de tous les temps, c'est vrai. C'est vraiment mon numéro 1, donc c'est quand même un titre qui est fort pour moi. Mais en travaillant un peu cet épisode-là, mais même j'y réfléchis depuis quelques semaines, j'attends pas un Bioshock 4 parce que pour moi, c'est une licence qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire que pour moi, Bioshock 1, 2 et Infinite, qu'on aime ou qu'on aime pas Infinite, je trouve qu'avec les DLC, le tombeau sous-marin, c'est vrai que si on prend pas les DLC, je peux comprendre la frustration, mais avec les DLC, ça boucle la boucle. C'est vraiment l'histoire qui te dit, bon bah on relie le premier jeu à ce troisième volet, et du coup, bah, pas grand chose à re-raconter dans ce que voulait faire Bioshock, en mode en termes d'intention initiale. Donc en fait, avoir un quatrième volet, pour moi, c'est me dire, on vient me susurrer à l'oreille, ah mais t'aimes bien les villes un petit peu cheloues, dystopiques, avec un créateur, tu vois, qui va être un peu en... En fait, ça va faire Far Cry. J'y pensais, ça va faire ça.
Ouais.
C'est que c'est une boucle. C'est vous aimez telle mécanique, donc X, genre vraiment, c'est un peu question à trous. Genre j'ai en décor, un peu paradisiaque, j'ai un méchant un peu fou qui est et un héros un peu muet qui a un choix de rejoindre en gros les résistants ou les fascistes. Et vous avez un Far Cry. Vous déclinez ça toutes les zones et c'est Far Cry voilà, au Népal, Far Cry au Liban, vous faites ça où vous voulez. Voilà. Donc, je me dis, si Bioshock, ça devient ça, bah, ça m'emmerde un peu parce que l'écriture de Bioshock, je trouve que c'est quand même très intéressant. Donc, il y aura d'autres immersive sims, ça me manque pas. Là, il y a Clockwork Orange Revolution, un truc comme ça, jeu dont Jules avait parlé dans notre épisode bilan, qui je crois est censé sortir cette année, ou l'année prochaine, mais en tout cas pas dans pas trop trop longtemps, on imagine. Je suis curieux de voir ce que ça peut être. Si c'est de l'immersive sim, je suis toujours au rendez-vous. Et j'ai pas besoin qu'on me mette dans le label officiel, copyrighted. T'as vu, c'est ton vrai Bioshock.
Regarde, il y a le retour du Big Daddy. Regarde, il y a le retour des plasmides.
Voilà.
Regarde, tu vois.
J'ai pas besoin de mes jouets pour m'amuser.
Ouais, mais on est tous sensibles au fanservice.
Après, voilà, c'est sûr. On a tous nos biais. Je pense qu'il y a des licences.
Je crois que mon biais à moi, c'est Rayman. Voilà, je le pose juste là. Sauf que je sais que ça arrive. Il y a un remake du 2. À voir, j'espère que quand même ça sera.
Bah, Rayman, tu vois, dans ma tête, c'était quand même une licence un peu morte.
Bah oui, depuis Rayman.
Bah, Splinter Cell, pareil, on n'a pas parlé d'Ubisoft, mais Splinter Cell, Prince of Persia.
Ce serait bien qu'on dédie un épisode à Ubisoft,
ouais,
un de ces quatre, quoi.
Ouais. Mais du coup, on va peut-être passer aux recommandations. Peut-être qu'il y a des jeux de licences qui sont mortes, qu'on a envie que vous fassiez, que vous découvriez, si c'est pas encore fait.
Tu commences ?
Vas-y, commence.
Un jeu de EA, waouh, qu'est-ce que j'ai avec Electronic Arts, c'est une dinguerie. un jeu de EA sorti en 2008. Ouais, 2008. On sent que je l'ai mis là parce que je pouvais pas le mettre du coup dans l'épisode de 2007. Et ce jeu-là, c'est Mirror's Edge. Par DICE. DICE qui du coup nous a offert les sublimes Battlefield. Licence morte avec des pincettes, j'ai envie de dire, parce que le dernier opus date de 2016. Bon, c'est Catalyst, il est quand même vraiment moins bien que le premier. Mais. Vu comment EA gère ses licences, je les vois pas du tout revenir avec un reboot d'un Mirror's Edge, alors que j'aimerais bien, ce serait quand même sympathique. Mais c'est une licence qui... Bah déjà, c'est quoi Mirror's Edge ? Mirror's Edge, c'est un jeu sorti en 2008, voilà, sur Xbox 360, PS3, et je trouve que c'est vraiment un jeu qui encapsule beaucoup, beaucoup de cette génération. C'est un jeu, du coup, à la première personne de parcours, où en fait, on est dans un monde un peu futuriste, dans une ville qui dit pas vraiment son nom, mais on dirait une ville un peu type... ça ressemble beaucoup à Tokyo. Et en fait, on est dans un monde où en fait, on a des corpos qui surveillent toute la ville et tout. Il y a des systèmes de surveillance de tarés au niveau du sol, en fait, au niveau, voilà, dans la ville. Du coup, il y a des révolutionnaires.
Des messagers.
Des messagers, c'est ouais. ça, qui en fait font du parcours sur les toits et font un, du coup un travail de messager MDR. Et en fait, tout simplement parce que voilà, comme ça, ils passent pas par les circuits internet, ce genre de choses ouais. qui sont totalement contrôlées par le réseau. Et en fait, du coup, voilà, c'est un jeu qui se passe totalement en gratte-ciel, littéralement. Et en termes de sensations, et surtout en termes de direction artistique, c'est un jeu qui est visuellement magnifique. Même encore aujourd'hui, il y a cet aspect très frutiger, aéro. Je sais que la Gen Z aime bien mettre des noms sur des esthétiques. Je suis né en 2001, moi aussi. Donc, cet aspect très, voilà, genre, même Faith, voilà, la prota, elle a ce truc années 2000. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche, en fait, dans... C'est un jeu qui avait de la sauce et qui l'a encore. C'est un jeu, voilà, je disais, pas besoin d'un nouveau Mirror's Edge, en fait. Jouez juste à Mirror's Edge. Il est là, il existe, il est gentil. C'est un superbe jeu. Et c'est un jeu qui a vraiment eu un... J'ai envie de dire une descendance. Moi, je pense à des jeux comme Dying Light, en termes de parcours. Plein d'autres jeux, voilà, à la première personne qui met une emphase sur les mouvements. Purée, Mirror's Edge, qu'est-ce que c'est? C'était vraiment le pied, c'était trop bien. Et visuellement, ça vaut encore le coup. Genre, c'est, en termes de direction artistique, c'est taré.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. C'est un jeu, mais intemporel. C'est magnifique. T'en as un deuxième?
Non, du coup, c'est tout. Ouais.
Ok. Bah, du coup, moi, j'en ai deux, allez. J'en ai un que je vais évoquer là, qui est pas une licence, on va dire que c'est une IP, mais parce que vraiment, elle est morte. C'est impossible qu'elle revienne un de ces quatre. Mais c'est un studio que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Black Rock Studio. Et Black Rock Studio, c'est le studio qui avait fait Pure, que vous voyez, jeu de quad, ainsi je crois que peut-être un Motorstorm et tout, ils ont peut-être dû faire. Mais surtout, ils ont fait un jeu que j'aime énormément et qui est ma recommandation, qui est Split Second. Et c'est un jeu de bagnole, un jeu de course très réaliste dans l'idée, qui était à l'époque vu comme photoréaliste, sorti en 2012. Et en fait, c'est du Mario Kart avec des voitures hyper grisâtres, tu sais, le côté très DA où vraiment c'est un peu crasseux, il y a de la boue et tout. Et en fait, c'est juste ça. C'est du Mario Kart avec des voitures très réalistes qui conduisent sur des pistes. Et en fait, le principe du jeu, il t'explique que tu participes à une compétition filmée à travers le monde, vraiment un truc hyper populaire. Et du coup, quand tu charges un peu tes boosts et tes actions, tu peux actionner des streaks sur le terrain, sur la piste, pour la faire changer. Donc, soit pour faire exploser des bagnoles, soit pour modifier. Genre, tu peux avoir un aéroport où d'un coup, l'avion va se crasher, ça va modifier le circuit en pleine course et tout. Et le studio n'existe plus, il a été fermé l'année d'après ou autre par Disney, parce que c'était un studio qui était sous Disney et tout, qui voulait se consacrer à d'autres licences, à d'autres trucs, donc ils ont fermé le studio, ils ont fermé ça, et donc ces licences-là, il n'y a quasiment aucune chance qu'elles viennent, enfin vraiment pure et ça a fait maintenant 13, 15 ans, voire 16 ans que c'est sorti, mais c'est un excellent jeu de course, et je trouve que ça valait le coup d'en parler. Et le deuxième jeu que je voulais évoquer... je crois que je l'ai jamais évoqué, donc je veux dire, c'est genre Beyond Good and Evil.
Beyond Good and Evil?
Ouais. Je l'avais déjà évoqué?
Non, je crois pas.
Je crois pas que je l'ai évoqué, vu qu'on a pas fait d'épisode sur Ubisoft.
Quel jeu?
Mais c'est un jeu incroyable. Bah voilà, par le mec qui a créé Rayman, Michel Ancel. Et c'est un jeu donc sorti en 2003, je revérifiais la date pour pas dire de bêtises.
Ouais, sur GameCube, 2003. PS2.
Et je trouve que c'est un des plus beaux jeux jamais faits. Genre c'est...
L'âge d'or du jeu français,
ouais.
Franchement, c'est...
En termes de direction artistique, c'est vraiment magnifique. Le personnage de Jade avec son pote le cochon, en fait, on joue une reporter dans une ville qui fait un peu des enquêtes et tout, il y a une sorte de machination avec le pouvoir politique en place. C'est pas aussi, comment dire, nerveux que ce que je raconte là, c'est ça l'histoire, mais c'est très cartoonesque. C'est vraiment avec des personnages très
charmants comme et tout.
Mais c'est hyper charmant, on a un petit véhicule pour se balader, une sorte d'aéroglisseur qu'on peut améliorer, réparer et tout. Et en fait, c'est un jeu qui, je trouve, est déjà extrêmement beau. C'est vrai que c'est vraiment de la GameCube pour moi à son pic. Le style graphique ne vieillit pas. C'est tellement joli en tant que tel. Il y a eu un remaster, je crois, sorti là pour les 20 ans. Il y a 2-3 ans, du coup, ça va être 2023. Et je me dis, le remaster est sur Switch, il est sur PC, il est sur console. Genre, toutes les consoles possibles et imaginables, là, il a été fait. Et je pense que c'est pour soutenir le développement du 2, qui a été confirmé comme étant toujours en développement. Et ça, c'est un peu une arlésienne. Peut-être on fera un épisode dessus sur les jeux qu'on attend, genre les Half-Life 3 et bah, les Beyond Good and Evil 2, où c'est un jeu qui a été annoncé en 2006 ou 2008 avec un premier teaser. Et l'équipe a changé. Et entre-temps, les dernières images qu'on avait, c'était dans les années 2010, où on voyait le singe qui montrait en mode cinématique pour annoncer le jeu. Et on n'a aucune image depuis. Ça fera 10 ans bientôt qu'on n'a aucune nouvelle, à part des petits communiqués pour dire « Non, le jeu est encore en développement, on t'attend. »
Après, ils embauchent des gens, des demandes d'emploi, ce genre de choses.
Voilà.
Donc, mais ouais, en tout cas, faites Beyond Good and Evil. Franchement, c'est absolument charmant. Ouais. Pour moi, c'est l'apogée, l'âge d'or d'Ubisoft.
Mm.
Tous ces jeux-là, là. Même Rayman 3, fuck it, je le lance.
Ouais.
Prenez, mangez. Voilà, c'est comme ça, on drop. On est généreux, c'est le mois de mars. Et en tout cas, c'est une fin d'épisode. Je te remercie, Ulysse, pour cet épisode. Franchement, c'était chouette. Joue à des jeux vidéo, que ce soit des jeux morts ou des jeux vivants.
tant que c'est des jeux, c'est bien.
Voilà, tant que c'est des jeux, c'est bien. Mais voilà, c'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. On se retrouve le mois prochain pour l'avant-avant-dernier épisode de la saison. Mon Dieu, qu'est-ce que ça avance vite. Et voilà, avril, mai et juin. Et puis, fin de saison, j'ai hâte d'être avec vous le mois prochain. En tout cas, je vous remercie. Merci Ulysse.
Merci à toi, Swin.
Bisous à tous, à la prochaine.
Ciao, ciao.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.